Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Quelle semaine ! On ne s'est pas ennuyé un seul instant. Les surprises ont été au rendez-vous. Dissolution de l'Assemblée, rabibochage de la gauche, explosion de la droite.
Non.
Oh, pardon, je me suis trompé de fiche. On va bien sûr parler de la WWDC 2024, ne t'inquiète pas Christophe. Apple a finalement lancé sa grande offensive dans l'intelligence artificielle avec une dizaine de fonctionnalités spéciales, un Siri plus malin, mais aussi l'intégration de ChatGPT. En plus de ce saut dans l'IA générative, on a bien sûr découvert iOS 18, macOS Sequoia et les autres mises à jour majeures. La WWDC 2024 a-t-elle tenu ses promesses ? C'est ce qu'on va voir avec Christophe dans cet épisode spécial de Sortie de veille. La WWDC 2024 a été spéciale pour Mac Génération cette année car nos développeurs ont eu la chance d'être tirés au sort et de participer à la conférence sur place à l'Apple Park. Si vous voulez découvrir les coulisses de l'événement, je vous encourage à écouter l'épisode exceptionnel de Carnet Panique avec Félix, Cédric et Robin qui est disponible pour les abonnés au Club Hygiène. Salut Christophe, ça va ?
Bonjour Stéphane, oui ça va et toi ?
Ça va bien, ouais. T'es pas trop jaloux d'avoir suivi la WWDC seulement à distance ?
Ah, ça, c'est toujours un petit peu compliqué. J'ai écouté le podcast qui est très intéressant. Alors, bon, pour faire un petit peu de tourisme, c'est très, très bien d'aller à Apple Park et plus généralement en Californie. Mais je me pose la question de savoir si c'est vraiment intéressant pour la WWDC en elle-même. Et enfin, moi, c'est pas que je suis un peu nostalgique, mais oui, je regrette un petit peu l'ancien événement où... il y avait des milliers de développeurs qui convergeaient le temps d'une semaine en Californie pour discuter, pour échanger. C'est ça, j'aurais bien voulu y assister.
Écoute, on va revenir ensemble sur les grands thèmes de cette WWDC. Alors le premier et le plus important, c'est évidemment Apple Intelligence. On attendait depuis un moment la réponse d'Apple à la grande vague d'IA générative. Eh bien, la voici enfin. Apple Intelligence, c'est le nom donné à une dizaine de fonctionnalités qui sont assez spéciales. Il y a des fonctionnalités qui sont liées au texte, comme des résumés automatiques ou des suggestions de réponses. Il y en a aussi qui sont liées aux images, comme la génération d'emojis personnalisés ou la suppression d'éléments indésirables sur les photos. Et puis, il y a bien sûr un Siri qui doit être beaucoup plus intelligent. L'assistant peut tirer parti de vos données personnelles ou de ce qui est affiché à l'écran pour répondre plus précisément, par exemple. Alors, toutes ces fonctionnalités sont exécutées soit en local, soit sur des serveurs spéciaux d'Apple qui sont pensés pour garder toutes les données confidentielles. Avec tout ça, est-ce qu'Apple répond efficacement aux attentes qu'on avait placées en elle et qu'elle avait elle-même créées, Christophe ?
Aïe, grande question. En tout cas, tu vois, hein, Apple a trouvé la parade pour ne pas utiliser le terme intelligence artificielle. Maintenant, c'est Apple Intelligence.
Ouais, c'est plutôt malin. Hein.
Ouais, c'est très très malin, ouais. Alors, c'est vrai que avant chaque WWDC, on a toujours beaucoup de doutes concernant Apple. Est-ce qu'Apple va réussir à mettre la barre un peu plus haut, à répondre, on va dire, aux problématiques du moment ? Je pense que ce problème, ça arrive chaque année. Je pense que l'un des soucis par rapport à ça, c'est que très souvent, Apple est un peu la dernière société à sortir du bois. Toutes les grosses entreprises ont déjà communiqué depuis le début de l'année sur leur projet du moment. Et ben voilà, Apple, il faut attendre le mois de juin. On avait cru comprendre qu'autour du mot AI, enfin Apple Intelligence, il se passait quelque chose. Et donc là, effectivement, on a été servi. Mais c'est vrai que justement que le challenge cette année, il paraissait plus important que d'habitude, parce que justement, il y a un tel emballement pour l'intelligence artificielle et on avait l'impression de voir Apple rester à quai, même si elle communiquait quand même de manière assez fréquente en montrant « Oh, regardez, on a fait tel modèle, oh, regardez ce papier qu'on vient de publier » ou ce genre de choses. Voilà, elle tenait en tout cas à faire savoir qu'il se passait quelque chose.
Enfin, c'était des publications scientifiques, c'était pas des communiqués de presse destinés vraiment à montrer au grand public qu'il se passait quelque chose.
C'était une communication effectivement à bas bruit, mais c'était pour dire, attendez, voilà. Alors, pour te répondre à ta question, oui, j'ai envie de dire oui, clairement oui. Donc, outre sa nouvelle dénomination assez maligne, Apple Intelligence, qui est en quelque sorte une dénomination fourre-tout pour rassembler tous les efforts d'Apple en termes d'intelligence artificielle, elle a une stratégie qui paraît assez cohérente à étage, c'est-à-dire, voilà, les terminaux vont essayer dans un premier temps de répondre à la requête d'utilisateur en local. Si elles n'y arrivent pas, elles vont s'appuyer sur l'architecture serveur d'Apple. Et si l'utilisateur veut vraiment aller plus loin, bah, il y a ChatGPT. Ce qui est malin, c'est que toute cette histoire est complètement transparente pour l'utilisateur qui n'aura pas à se poser de questions de savoir « Ah tiens, c'est mon iPhone qui bosse ou c'est le serveur d'Apple qui travaille ». Il y a juste l'étape ChatGPT où, évidemment, là, par contre, l'utilisateur sera averti, on lui posera la question « Est-ce que tu veux vraiment y aller ou pas ?» Donc, par rapport à ta question, j'ai vraiment envie de dire un grand oui, mais, parce qu'il faut, il y a toujours un mais, il faut chipoter un petit peu. Maintenant, il faut voir l'exécution de ce plan. Mais on a vu quand même des démonstrations techniques d'autres géants de la tech qui étaient autrement plus fumeuses que celles d'Apple. Là, il n'y a rien qui paraît impossible ou inimaginable. Mais par contre, plus que jamais, on va avoir une livraison des nouveautés dans iOS 18 et dans macOS Sonoma. On va vraiment avoir des petits paquets de nouveautés, hein, parce que là, pour parler d'Apple Intelligence, on part donc d'une bêta qui devrait sans doute arriver en même temps que, enfin, en tout cas pour le grand public, hein, que iOS 18 et macOS Sonoma. Cette bêta sera dans un premier temps réservée aux utilisateurs qui sont sous langue anglaise. Je pense que même peut-être que ce sera réservé aux clients américains. C'est pas forcément très très clair. Enfin, je sais pas si Apple a davantage communiqué là-dessus.
Oui, c'est normalement réservé aux terminaux qui seront configurés en anglais avec Siri en anglais. Et puis aussi peut-être une liste d'attente. Donc, ouais. Faut pas s'attendre à ce qu'on puisse tester dès cet automne Apple Intelligence.
C'est ça. Et donc, les autres langues, Apple a clairement dit, c'est pas avant 2025. Ouais. Donc, c'est juste ça. Alors, maintenant, il faudra voir quand les efforts d'Apple aboutiront. Est-ce qu'Apple n'aura pas repris du retard parce qu'il se sera passé d'autres choses? Et voilà, la difficulté maintenant d'Apple, ça va être aussi de montrer la voie et non plus de rattraper son retard dans ce domaine. Mais voilà, tout ce qu'on a vu est quand même dans l'ensemble très 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 intéressant.
Mais il y a un autre point quand même qui fait grincer des dents, c'est aussi la compatibilité avec les appareils existants. Et là, je pense aux iPhones, parce que dans les iPhones déjà disponibles qui sont compatibles avec Apple Intelligence, il n'y en a que deux, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Alors, on voit quand même pas mal de clients d'iPhone 15 ou même d'iPhone 14 Pro se plaindre, être déçus. Est-ce que tu penses que Apple pourra améliorer cette situation d'une façon ou d'une autre?
Alors, moi, le premier, en tant que client d'iPhone 14 Pro, je tiens à signaler. Alors, tout d'abord, voilà, j'ai oublié de dire, il y a la bourse qui a énormément apprécié les annonces d'Apple. L'action d'Apple s'est appréciée d'un peu plus de 10% cette semaine. J'ai plus les chiffres exactement. Elle est redevenue entre-temps la première capitalisation boursière au monde. Donc, voilà, une belle semaine pour l'action Apple. Qui a compris effectivement que Apple Intelligence pouvait à court ou moyen terme lancer une vague de renouvellement de terminaux. Et c'est vrai que bon, enfin peut-être qu'il y a 2-3 semaines on le disait à l'intérieur de ce podcast, je parle par exemple de l'iPad, je me disais ouais, je le vois, oui, ils me paraissent pas, enfin j'ai pas spécialement envie de renouveler mon iPad. Là, quand je vois ce qu'on peut faire avec Apple Intelligence, je me dis ah oui, peut-être un iPad avec une puce M1, enfin M2 ou M4, ça peut être pas mal. Alors par rapport à ta question, est-ce que Apple va un petit peu étendre sa liste? Bah, après, il y a un vrai problème. Je pense que c'est la quantité de mémoire vive des terminaux. C'est ça qui empêche Apple peut-être d'ouvrir Apple Intelligence aux iPhone 14 Pro, aux iPhone 15. Donc, c'est vrai que 8 gigas, c'est le minimum, a priori, d'après tout ce qu'on a lu pour l'intelligence artificielle générative. Mmh. Et là, on va même relancer une vieille marotte. Là, on voit d'ailleurs par rapport à Xcode, donc Xcode aussi s'est ouvert à Apple Intelligence et permet d'aider les développeurs lorsqu'ils tapent du code. Et pour cette fonctionnalité, il faut 16 gigas de RAM. Ouais. Voilà, donc quand on énonçait certaines choses, c'était quand même pas pour rien. Mais pour répondre vraiment à ta question, j'ai un peu peur que cette limite de RAM fasse qu'Apple soit un petit peu coincé. Alors, on avait vu, je me souviens plus trop pourquoi. Enfin, si, c'était pour Stage Manager. Il y avait beaucoup d'utilisateurs qui avaient râlé il y a un an ou deux. Et Apple avait été un peu plus souple par la suite.
Mais là, ça paraît compliqué quand même pour cela. Ouais. On verra. Écoute, une autre annonce très importante en matière d'IA, on en a un peu parlé, c'est l'intégration de ChatGPT au sein d'iOS 18 et macOS 15. Alors, on pourra utiliser, si on le veut, hein, ça ne sera pas obligatoire, le service d'OpenAI sans passer par une application à part entière. Il sera disponible par le biais de Siri ou de diverses applications. Alors, ChatGPT sera là pour épauler Siri sur les requêtes complexes et pour faire des tâches plus larges que les outils d'Apple. C'est gagnant-gagnant comme affaire, non ? Tout le monde y trouve son compte, les utilisateurs, Apple et OpenAI.
Oui, alors c'est d'accord. Oui, quand j'ai lu effectivement qu'il n'y avait pas, suite à cet accord, on va dire, de relations financières entre ChatGPT et Apple, il n'y en avait pas un qui... OpenAI et Apple... J'ai trouvé ça assez étonnant, parce que voilà, quand on pose tous les points, donc grâce, ou en tout cas avec cet accord, c'est certain que ChatGPT va continuer à se démocratiser un peu plus. Mm. C'était quand même une application qui était déjà très 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 populaire. Mais ceci dit, le contre-coup de cette affaire, c'est que OpenAI va donc recevoir un nombre croissant de requêtes. Et donc, on l'a compris, on le sait que tout cela a un coût. L'intelligence artificielle est quand même demande énormément de puissance. Du point de vue d'Apple, pour elle, c'est tout bénef. Elle met à disposition des utilisateurs le NEC le plus ultra en termes d'IA générative. C'est ce que, entre guillemets, elle a toujours fait quand elle ne pouvait pas assurer elle-même une fonction. Voilà. Même si Google paye pour être le moteur de recherche dans Safari, ça reste quand même à ce jour le meilleur moteur de recherche, même si peut-être cette suprématie est peut-être moins évidente qu'à une époque. Toujours, j'ai cherché à voir ce qui est intéressant pour l'un et pour l'autre. Pour OpenAI, être adossé avec Apple en termes d'image de marque, bon, c'est positif, c'est un vrai plus, c'est NEC le plus ultra. On a compris que malgré tout, il y aurait sans doute du business à faire entre les deux structures. OpenAI va pousser les utilisateurs à utiliser la version payante de son produit. Il y aura un achat in-app, évidemment, quelque part dans le système. Apple touchera une petite commission. Alors, est-ce que c'est satisfaisant pour satisfaire tout le monde ? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit suffisant. Ceci dit, OpenAI tire cependant un autre avantage dans ce deal. C'est d'être le premier fournisseur d'intelligence artificielle générative. Apple n'a pas fait de mystère, elle va essayer de travailler avec d'autres acteurs. Mais voilà, si Apple avait sélectionné un autre concurrent pour commencer, Gemini par exemple, OpenAI aurait pu perdre des parts de marché. Enfin, et c'est aussi le point qui interroge, mais voilà, on imagine que d'une manière ou d'une autre, OpenAI va sans doute profiter des datas produites par les utilisateurs Apple pour améliorer ce modèle. Mais voilà, mais quoi qu'il en soit, moi, c'est vrai que comme tu dis, chacun y trouve un petit peu son compte, mais je suis pas totalement convaincu. Et je me dis que voilà, cet accord va tôt ou tard évoluer d'une manière ou d'une autre.
Surtout s'il y a de la concurrence, voilà, parce qu'Apple l'a dit, elle était ouverte à d'autres modèles, donc peut-être en faisant jouer la concurrence entre Google, pourquoi pas Microsoft, Mistral et d'autres, peut-être qu'elle arrivera à faire payer les services d'IA qui veulent s'intégrer à iOS.
Oui, clairement. Alors peut-être que pour OpenAI, c'est un calcul sur le long terme, c'est fort possible, mais je suis quand même assez épaté. La prouesse d'Apple de réussir à intégrer ChatGPT sans avoir à mettre la main au porte-monnaie et en plus sans que ses utilisateurs aient à ouvrir un compte. Donc ça, c'est quand même assez fou.
Ouais. Alors à côté des nouveautés liées à l'IA, il y a plein de nouveautés plus traditionnelles, si on peut dire, pour le système. Sur iOS 18, le gros morceau, c'est la personnalisation, bien sûr. On peut modifier l'écran d'accueil en espaçant les icônes ainsi qu'en changeant leur couleur. On peut également chambouler le centre de contrôle en mettant le contrôle à peu près où on veut, puis à peu près n'importe quel contrôle également. Du côté d'iPadOS 18, on gagne une calculette. Sur macOS Sequoia, on peut afficher l'écran de son iPhone et même le contrôler. Sur WatchOS 11, il y a des nouvelles fonctionnalités de santé et de sport. Et puis, quant à Vision OS 2, il y a des nouveaux gestes qui simplifient la navigation. Alors, je ne fais pas une liste complète, hein, vous avez plein d'articles sur Mac Génération, Watch Génération et iGénération dans lesquels on va détailler toutes ces nouveautés. Et puis, certains sont réservés aux membres du Club iGène, donc n'hésitez pas à vous abonner. Qu'est-ce que tu retiens, toi, Christophe, comme nouveauté pour ta part ?
Alors, si j'étais un hater Apple, j'aurais quand même beaucoup de grain à moudre, hein, parce que le coup de « Ah oui, vous pouvez enfin placer un icône où vous voulez sur votre écran d'accueil. » Ah, c'est bien ça, voilà. Mais c'est vrai qu'il vous avait fallu 3 ans pour avoir le copier-coller sur iPhone. Ah, et vous, une calculette sur iPad, ouais, c'est pas mal aussi, ça c'est bien aussi. Hein. Non, mais alors, moi, ce qui me perturbe un petit peu, c'est vrai que c'est le keynote de la façon dont il est scripté. Si tu regardes, imagine que tu regardes les 20 premières minutes du keynote, tu vois que, enfin, tu vois iOS 18, tu vois ça. Ah oui, bon, il y a la personnalisation. Ah oui, il y a le centre de contrôle avec les pages que tu peux faire défiler. Ceci dit, ça va être très très bien ça. Et puis après, boum, le keynote, enfin, Apple passe sur un autre système. On a l'impression de se dire, ah mais il y a que ça dans iOS 18.
Ah mais, oui, mais bon, c'était pour avoir le one more thing Apple Intelligence.
Quoi. Alors, effectivement, on a très vite senti qu'il allait effectivement avoir le one more thing, comme tu dis, pour Apple Intelligence. Mais ce qui est un peu étonnant, c'est qu'en fait, c'est qu'après, Apple va présenter iPadOS, et là, tu dis, ah, Note, c'est pas mal, ah, ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Dans macOS, il y a Safari, c'est intéressant. Mais c'est vrai que finalement, toutes ces nouveautés, elles sont la plupart du temps pour les 3 systèmes d'exploitation.
Oui.
Donc, il y a ce côté-là qui est un petit peu... Alors, quand on connaît vraiment bien le truc, c'est pas un souci, mais alors, pour l'utilisateur lambda, il peut se dire, ah, disons, ils ont vraiment fait le service minimum pour iOS 18 cette année. Mm. Enfin, on va quand même pas gâcher son plaisir, on va pas quand même se mettre une semaine à WDC, il y a 51 semaines pour ça. Je crois pas que Nicolas se soit plaint qu'il y a encore trop de bugs, mais ça ne devrait pas tarder.
Ah, un petit peu, ouais. Pour l'écran d'accueil, pour les choses comme ça.
Ceci dit, moi, ce que je trouve assez épatant, c'est que les rumeurs avaient quasiment tout juste. Enfin, moi, c'est comme si j'avais un bingo. Je fais, ah, voilà. Note, c'est pas fait. Ah, ça, c'est fait. Ça, Safari, ah, c'est fait. Ah, Note, ils ont attendu Apple Intelligence pour le faire. Boum, boum, boum. D'ailleurs, c'est ça qui m'a fait assez tôt dire, c'est quand ils ont présenté. Parce qu'on nous avait dit que Note serait un gros morceau dans iOS 18. Mmh. Et quand j'ai vu qu'il était passé complètement à l'as lors de la présentation, lors des 20 premières minutes, je me suis dit, ouais, OK, il va y avoir un gros morceau intelligence artificielle à la fin. Et d'ailleurs, en tout cas, moi, c'est une des applications que j'ai très envie de tester. C'est une application qui, avec l'intelligence artificielle, va monter en puissance. Ouais. Et là où je trouve ça très intéressant, c'est que sur chaque plateforme, elle va avoir son petit truc. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire avec le stylet, avec le pencil sur iPadOS, les fonctions de reconnaissance vocale peut-être sont un peu plus intéressantes sur l'iPhone. Enfin, voilà, c'est une application qui n'a cessé d'évoluer et qui est toujours plus complète. Donc voilà, je suis assez impatient. Alors, Safari, on a l'impression qu'Apple s'est réveillé, mais à moitié, je trouve. Hein. J'aurais pensé qu'elle répondait plus clairement à certaines nouveautés que l'on trouve dans Arc. C'est pas tellement le cas. Y a un point, par contre, que je trouve clairement impressionnant, c'est continuité. C'est impressionnant comme, au fil des années, cette fonctionnalité est montée en puissance. Il faut se rappeler qu'au début, c'était continuité, c'était juste un petit icône dans le doc, enfin une icône dans l'icône d'ailleurs, pour être, voilà. Et maintenant, de se dire qu'on va pouvoir manipuler son iPhone depuis son Mac, ouais, je trouve ça assez bluffant.
C'est assez bluffant. Après, je me demande dans quel contexte on pourrait vouloir faire ça. Mais voilà, on testera au cours des prochains mois. Parce que cette fonctionnalité-là, donc la recopie de l'iPhone sur le Mac, n'est pas encore disponible. Mmh. Ça arrivera durant cet été en bêta.
Alors moi, j'ai une idée d'utilisation. C'est l'une des premières questions que j'ai posées à Nicolas et à Félix quand ils ont installé les bêta. Ouais. C'était de leur demander si l'application journal était arrivée sur iPadOS ou macOS. C'est pas le cas, mais résultat, lorsque tu auras quelque chose à dire à ton journal, eh ben, tu pourras le taper. Ah oui. Voilà, par exemple.
Par exemple. Pas mal, ouais.
Voilà. Vas-y, oui.
Non, je voulais passer à la suite.
Allez, j'ai un dernier point. Vas-y. Puis après, je te retournerai la question, t'inquiète pas. Sinon, WatchOS, là aussi, alors le logger d'ici Rainmaker. Alors, je pense que c'était un off, mais il n'avait pas voulu dire que c'était un off, mais il avait dit que dans le sport, Apple avait une stratégie de 3 ans, sur 3 ans, et que chaque année, la première année, ils avaient commencé à intégrer la puissance, il y avait eu l'Apple Watch Ultra, enfin, ils avaient envoyé un signal disant, hey, dis donc, le sport, ça nous intéresse. La deuxième année, ils avaient un petit peu continué en mettant, cette fois en prenant en charge la puissance au niveau du vélo. Ils avaient commencé aussi à mettre un système de cartographie qui est hélas uniquement disponible aux États-Unis pour les balades dans certains parcs naturels. Et cette année, alors, voilà, le troisième étage n'est pas totalement fini, mais on n'est pas loin du compte. Donc, si j'ai bien compris, mais c'est assez flou, on pourra, avec plan, déterminer un parcours et suivre ce parcours lors d'une balade. Donc c'était le point qui manquait. Et pourtant, ça va être, je pense, à terme, un vrai point fort de l'Apple Watch, parce que quand on utilisait déjà des solutions tiers comme Footpass, la navigation qui pouvait marcher entièrement à l'audio si on le souhaitait, elle te disait vraiment tourne à gauche là, tourne à droite, prends ce sentier. C'était vraiment pas mal. Alors, si c'est intégré dans watchOS, ce sera encore mieux. Et puis, alors, Apple, il va avec sa nouvelle application qui va permettre effectivement de suivre à la fois sa charge d'entraînement et qui va également analyser. Et de l'autre côté, on aura un autre pan qui permettra d'analyser ses signes vitaux. Au bout du bout, on arrive à quand même à avoir une solution assez complète et Apple l'a fait tout en gardant une certaine simplicité. Bon, on sent que j'ai l'impression qu'Apple n'a pas encore tout dévoilé, mais je pense qu'on aura peut-être des petites surprises à la rentrée lorsqu'Apple présentera sa nouvelle gamme de montres. En tout cas, à suivre. Et donc, toi?
Les nouveautés que je
Ouais,
retiens,
voilà, ouais.
peut-être le centre de contrôle personnalisable d'iOS 18. Après, ça peut être vite le bazar, mais je pense en prenant son temps, on peut se faire un super centre de contrôle vraiment qui correspond à ce qu'on utilise régulièrement comme bouton. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait une gestion des fenêtres sur macOS 15. Ça faisait partie de mes envies, de mes désirs, et je crois qu'il n'y avait pas eu de rumeur là-dessus. Donc en fait, le fait de pouvoir facilement redimensionner une fenêtre en l'approchant d'un bord de l'écran, comme sur Windows, ça, je trouve ça, j'ai rapidement essayé, ça marche très bien, ça sera très pratique. Et pour le reste, photo, je suis un peu circonspect pour l'instant sur la toute nouvelle application. Je me demande si ça va pas être en fait un peu plus compliqué qu'avant, mais c'est à voir avec le temps. Voici ce que j'ai retenu principalement. Ouais.
Mais ce qui est étonnant, c'est que tu dis pourquoi en 2024, il y a des. Enfin, je veux dire, pourquoi aujourd'hui on a la liberté de placer un icône où l'on veut dans iOS 18? Pourquoi tout d'un coup les fenêtres deviennent magnétiques et un petit peu redimensionnables comme ça? Enfin, pourquoi ça arrive aujourd'hui et pas il y a 3 ans? Et enfin voilà, c'est pas comme s'il y avait technologiquement un saut quantitatif qui permettait de. Voilà, de. C'est ça
Peut-être
qui m'épate.
le sens du détail d'Apple, tu vois, ils prennent leur temps pour peaufiner exactement ça.
Voilà. Donc maintenant, quand je vois tout ça, je me dis qu'on peut y croire tôt ou tard, il y aura peut-être dans iPadOS un gestionnaire d'utilisateur.
Oui, bah ça c'est ma grande déception, c'est qu'il va falloir encore attendre une année supplémentaire, voire plus,
Sais,
pour pouvoir partager facilement un iPad dans la famille, ouais.
S'il a fallu, alors l'iPad c'est 2010, s'il a fallu attendre 14 ans pour avoir l'application calculette, je pense que tu vas peut-être attendre quand même quelques temps avant de l'avoir celle-ci.
Ouais, j'ai bien peur, ouais. Alors on va terminer le récap de la WWDC avec une annonce qui concerne la France. Comme nous l'avions révélé récemment, le Vision Pro sera lancé cet été dans l'Hexagone ainsi que dans d'autres pays. Alors les précommandes débuteront le 28 juin et le casque sera disponible à partir du 12 juillet. On connaît du coup son prix en euros, ce sera 3 999 €. On s'attendait à peu près à ça, à vrai dire, hein. Il coûte 3 500 $ aux États-Unis, sans les taxes. Donc en voilà, avec les taxes et puis le petit coût supplémentaire pour l'Europe, ben, ça fait 4 000 euros.
Apple fait presque un effort, hein, parce que 3 500 $ fois 20%, c'est un peu plus haut, normalement.
Oui, ça dépend quelle taxe tu prends dans quel état aussi. Oui. Mais voilà. Le Vision Pro pourra compter à son lancement sur quelques applications françaises de divertissement. Je pense notamment à MyCanal qui est disponible depuis le départ. Mais il y aura aussi l'application TV Oki de Free et puis M6 Plus. Alors donc, le 12 juillet, en plein pendant les grandes vacances, est-ce que c'est le bon moment pour lancer un casque de réalité virtuelle ?
Ah bah oui, parce que c'est un hobby pour Apple, le Vision Pro. Je suis un peu sévère et je suis pas totalement, entièrement convaincu de ce que je dis, mais enfin, j'ai presque l'impression qu'on prend ce chemin-là par rapport au Vision Pro. Alors c'est vrai que la mise à jour du Vision Pro est relativement mineure. Bon, en même temps, ça s'explique assez aisément. Le produit est sorti courant l'hiver aux États-Unis, donc c'est certain que les développeurs ont passé plus de temps à corriger des bugs, à régler des problèmes de jeunesse plutôt que de se lancer dans le développement de nouvelles fonctions. Il y avait pas le temps, ça c'est une évidence. Mais il y a quand même un point qui m'interpelle. Voilà, c'est que peut-être que tu me contrediras, mais Apple Intelligence n'a pas été présenté pour le Vision Pro.
Ah oui, c'est bien ça, ouais.
Et quel autre produit, ouais.
Apple, justement, en tout petit, en bas d'une page, sur Apple Intelligence, dit que donc cet ensemble de fonctionnalités sera disponible l'année prochaine dans d'autres langues et sur d'autres plateformes. Donc ça veut peut-être dire que le Vision Pro y aura droit l'année prochaine.
Ah, j'en doute pas, mais à la limite, c'est peut-être la plateforme qui a le plus besoin d'intelligence artificielle, le Vision Pro. Elle a besoin d'un Siri ultra performant, elle a besoin, enfin, et de la voir comme ça arriver, ouais, je suis assez étonné de cela. Mais voilà, je suis de plus en plus sceptique, mais c'est plus sur la façon dont, enfin, j'ai du mal avec la volonté d'Apple de réserver son casque à un public professionnel, de proposer un produit à un tarif si élevé. Voilà, par le passé, quand elle a lancé des produits qui ont été des succès commerciaux, elle a toujours utilisé une démarche complètement opposée. Et c'est pour ça que, ouais, finalement, je suis de plus en plus sceptique. Et il y a juste un point qu'il faut relever, c'est que le Vision Pro arrivera une semaine plus tôt en Asie. Voilà, alors Mark Gurman avait dit dans l'une de ses infolettres que c'était peut-être là où Apple avait peut-être le plus d'opportunités. Alors oui, l'avenir nous dira.
Même 2 semaines plus tôt, je crois qu'il arrive dès le 28 juin.
Je me suis planté. Ouais.
Eh bien écoute, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe.
Eh ben écoute, bon week-end à tous et repose-toi bien parce que voilà, une semaine de WDC, c'est toujours très fatigant.
Ouais, mais toute l'équipe a bien bossé, donc vous avez beaucoup de lectures sur Mac Génération et nos autres sites, hein, donc les aperçus des nouveaux systèmes, des nouveautés dans leur ensemble, et puis bah, on n'a pas fini de dépouiller la WWDC, hein, on va continuer encore la semaine prochaine et puis les semaines qui arrivent pour vous présenter tout ça en détail. Bon week-end à tous, à la prochaine.